messieurs, membres de la presse, auditeurs de Radio Okapi, bienvenue à ce rendez-vous hebdomadaire au sommaire de cette conférence de presse des Nations Unies. Activité des composantes de la MONUSCO, activité de l'équipe pays, situation militaire bien entendu. Deux invités à cette conférence de plaire. Tout à l'heure, nous aurons Martin Kobler, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, RDC, chef de la MONUSCO, qui va nous rejoindre pour essentiellement évoquer cette nouvelle résolution des Nations Unies sur donc le prolongement de du mandat de la MONUSCO. Et puis ensuite, depuis Goma, nous avons le général Carlos dos Santos Cruz, le commandant en force donc de la MONUSCO. Au titre donc des activités des composantes de la MONUSCO, l'actualité de la MONUSCO cette semaine est dominée, comme je le disais, par l'adoption par le Conseil de sécurité de la nouvelle résolution 2147 des Nations Unies redéfinissant le mandat de la MONUSCO. Martin Kobler, le chef de la mission, qui était à New York la semaine dernière, reviendra donc tout à l'heure sur les points principaux de cette résolution qui renouvelle donc le mandat de la MONUSCO pour un an. Bureau des droits de l'homme, dans le cadre de son mandat tel que défini par le Conseil de sécurité, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme en République démocratique du Congo assure une surveillance étroite de la situation des droits de l'homme à travers le territoire congolais et procède à des analyses des tendances relatives à la situation des droits de l'homme. Des informations sur ces tendances sont régulièrement partagées avec les autorités congolaises afin qu'elles prennent des actions nécessaires en vue de traduire en justice les auteurs des violations des droits de l'homme documentées par ce Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme. Ces informations sont mensuellement présentées donc à la conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies. Donc, pour ce faire, au cours du mois de février, le Bureau conjoint a enregistré 183 violations des droits de l'homme sur le territoire de la RDC, ce qui représente une légère hausse par rapport au mois de janvier 2014, au cours duquel 173 violations avaient été enregistrées par ce bureau. Le nombre de victimes qui a résulté de ces violations a connu une augmentation d'environ 190% au cours du mois de février 2014. Les types de violations des droits de l'homme les plus rapportés sont les atteintes au droit à l'intégrité physique, les atteintes au droit à la liberté et sécurité de la personne, les atteintes au droit à la propriété et les atteintes au droit à la vie. Les provinces les plus touchées au mois de février ont été les provinces du Nord et du Sud Kivu, ainsi que la province orientale. Il convient de signaler que dans les provinces de l'ouest du pays, le bureau conjoint a enregistré environ 90 violations des droits de l'homme et en fait un peu plus de 250 victimes, ce qui représente une hausse par rapport au nombre de violations des droits de l'homme et des victimes de ces violations enregistrées dans cette partie du territoire au cours du mois précédent. Les principaux auteurs de ces violations des droits de l'homme enregistrées par le bureau conjoint au cours du mois de février ont été les agents de la police nationale congolaise, la PNC, qui auraient été responsables d'environ 34% du nombre total des violations des droits de l'homme enregistrées en février, suivis par les militaires des forces armées de la RDC, la FRDC, qui auraient été responsables d'environ 30% du nombre total de ces violations des droits de l'homme. Les combattants des groupes armés seraient responsables, quant à eux, d'environ 28% du nombre total des violations des droits de l'homme enregistrées par le bureau conjoint au cours du mois de février. Au cours de ce même mois, les informations mises à la disposition du bureau conjoint, au moins 3 agents de la PNC et 14 militaires des FRDC ont été condamnés pour des actes constituant des violations des droits de l'homme. Le directeur adjoint du Bureau conjoint des droits de l'homme pour la RDC est avec nous, M. Abdelaziz Joy, qui pourra tout à l'heure répondre à d'éventuelles questions sur ce bilan donc sur la situation des droits de l'homme en RDC. Bureau genre. Du 21 au 28 mars, le nouveau conseiller en genre de la MONUSCO, Ernst Lucéus, s'est entretenu avec les chefs d'agence du système des Nations Unies et les différents partenaires des associations féminines de la société civile de Kinshasa. Le but était de s'enquérir de leurs besoins, de leurs attentes et d'identifier les pistes de collaboration et de bonne coordination de leurs activités au niveau national et provincial. Cet échange a donc abouti, entre autres, au renforcement des organisations de femmes de la société civile pour une meilleure participation au processus politique. Au constat selon lequel le redéploiement de la mission à l'Est laisse un vide au sein de la société civile, surtout au réseau féminin, à la nécessité de se rapprocher des couches les plus vulnérables de la société pour faire avancer les actions sur le terrain, à la redynamisation de la sensibilisation au niveau communautaire et rendre accessible l'accord cadre d'Addis Abeba et les autres instruments relatifs aux droits de l'homme dans toutes les quatre langues nationales, compte tenu de l'analphabétisme qui touche au moins 80% de la population. Il s'agissait également de la mise en place d'un groupe thématique à l'est du pays pour non seulement échanger, mais aussi mettre en place des activités en collaboration étroite avec les associations féminines et le ministère du genre. Voilà donc tout pour les activités des composantes de la MONUSCO. Nous allons tout de suite donner la parole à l'équipe pays. Dans un premier temps, le volet développement présenté par Geneviève Delaunoy. Bonjour Geneviève.
Bonjour Charles.
Que peut-on retenir cette semaine des activités majeures sur les activités de développement donc menées par le système des Nations Unies ici en RDC?
Il y en a trois. La première concerne l'UNICEF. Geneviève Inagosi, ministre du genre, de la famille et de l'enfant, a procédé hier, 1er avril 2014, à Kinshasa, au lancement du programme Femmes et Hommes, Progressons Ensemble. Il s'agit d'une initiative de l'Union européenne d'une valeur de 35 millions de dollars américains destinée à lutter contre les violences liées au genre en RDC. Cette initiative sera mise en œuvre en partenariat avec le gouvernement congolais par l'UNICEF, la FAO, c'est-à-dire l'Agence des Nations Unies pour l'Agriculture et l'Alimentation, et la coopération allemande GIZ. Cette initiative vise notamment à changer les comportements et rendre l'éducation plus égalitaire entre les filles et les garçons, favoriser l'autonomisation des femmes, renforcer les capacités des acteurs de l'État et de la société civile dans ce domaine, améliorer le fonctionnement de la police et de la justice. Dans un premier temps, le programme concernera les provinces de Kinshasa, du Bandundu et du Maniema et pourrait être reproduit dans tout le pays. Concernant ONU Femmes, ONU Femmes, ensemble avec les agences membres de One UN Gender Team, a accompagné au Sénat Geneviève Inagosi, ministre du genre, de la famille et de l'enfant, ce lundi 31 mars 2014 pour la présentation du projet de loi portant Code de la famille. Ce projet vise à réviser les dispositions discriminatoires à l'égard de la femme et de la jeune fille, notamment l'autorisation maritale, l'âge de la majorité de la fille et du garçon et l'incapacité juridique de la femme mariée. Après la présentation de l'argumentaire par la ministre du genre, les sénateurs ont procédé aux questions et échanges auxquels la ministre a répondu. Le projet de loi a été déclaré recevable par le Sénat dans sa majorité. Il sera envoyé à la commission socioculturelle d'une part et d'autre part à la commission politique, administrative et juridique, PAJ, pour analyse approfondie. ONU Femmes toujours. En marge de la clôture du mois de mars dédié à la femme, ONU Femmes a organisé ce lundi 31 mars un atelier d'échange avec le ministère provincial du genre, l'Assemblée provinciale du Sud Kivu et les entreprises privées œuvrant dans la province Sud Kivu. L'objectif de cet atelier était d'assurer le plaidoyer auprès des opérateurs économiques, la société civile et la communauté internationale afin de promouvoir les technologies de transport au bénéfice des femmes au Sud Kivu, d'attirer l'attention des bailleurs de fonds sur la nécessité de financer les activités visant à promouvoir les technologies de transport en faveur des femmes à l'est de la RDC, et d'identifier les actions à prendre pour alléger la pénibilité du travail quotidien des femmes. Cet atelier a également formulé des recommandations de suivi et de mobilisation de ressources collectives pour la réduction des peines dans le travail quotidien de la femme.
Merci Geneviève. Passons tout de suite donc au volet humanitaire avec Sylvestre Toumba Moudigaï. Bonjour Sylvestre.
Bonjour Charles.
Que peut-on retenir de l'activité humanitaire cette semaine en RDC?
D'abord, la situation de déplacement dans le Katanga. Plus de 500 000 personnes sont aujourd'hui déplacées dans cette province, selon la Commission provinciale Mouvement de population, soit une augmentation d'environ 100 000 personnes au cours du premier trimestre de cette année. 68% des déplacements sont dus aux attaques des groupes armés, principalement dans les territoires de Manono, Mitwaba et Pweto, mais aussi Malembankulu et Moba. Les autres déplacements sont le résultat des opérations militaires lancées pour anéantir ces groupes. Le territoire de Pweto compte 35% de l'effectif des déplacés internes dans la province. L'essentiel des personnes déplacées internes dans la province, soit 86%, vit dans des familles d'accueil et les autres dans des sites spontanés de Kalemie, Manono, Moba et Pweto. Les attaques répétées des groupes armés plongent les déplacés dans un cycle de déplacement continu et aggravent la vulnérabilité de ces personnes et des familles d'accueil, souvent déjà très démunies elles-mêmes. Leurs besoins prioritaires restent les vivres, les articles ménagers essentiels, les abris et les soins de santé. En plus des provinces du Kivu, le Katanga est aujourd'hui une préoccupation majeure pour la communauté humanitaire. 4 avril, journée internationale de la sensibilisation et de l'assistance à la lutte anti-mine. À l'occasion de la célébration de cette journée, le service de lutte anti-mine des Nations Unies en RDC va lancer ce 5 avril à Goma, dans la province du Nord Kivu, le rapport final de l'enquête nationale sur la contamination par mine antipersonnel et armes à sous-munitions, financée par le Japon. Le projet a été mis en œuvre en 2013 et a permis de collecter une information précise et fiable sur la nature, l'ampleur et la localisation des zones soupçonnées contaminées par les mines antipersonnelles et les sous-munitions. Cette année, la Journée internationale de sensibilisation et de l'assistance à la lutte anti-mine sera célébrée sous le thème « La promotion du travail des femmes dans la lutte anti-mine ». Les détails sur cet événement sont disponibles dans la note d'information qui vous sera distribuée aussi bien à Kinshasa qu'à Goma à l'issue de cette conférence de presse.
Merci Sylvestre. Direction Goma. Nous allons rejoindre le colonel Félix Prosper Basse qui va nous faire un survol de la situation militaire qui sera complétée, je crois, par le général Carlos dos Santos Cruz. Colonel, c'est à vous.
Charles, bonjour à tous. Bonjour à Goma. Bonjour à tous, bonjour particulièrement aux collègues de Kinshasa. Un rapide survol de la situation militaire. Nous commençons par l'ouest de la République démocratique du Congo, où le climat sécuritaire a été jugé calme mais imprévisible durant la semaine écoulée. L'environnement sécuritaire demeure relativement calme en province orientale, où l'armée congolaise et la force de la MONUSCO poursuivent leurs opérations conjointes contre les éléments résiduels de l'armée de résistance du Seigneur LRA dans les districts de Haut et Baweli. En Ituri, le climat sécuritaire s'est considérablement amélioré dans plusieurs localités du district, notamment à Guéti, à Veba et Komanda. Une accalmie relative a été observée dans la province du Nord Kivu durant la semaine écoulée. Toutefois, le climat sécuritaire demeure volatile dans certaines localités à cause des activités des groupes armés. Dans le territoire de Beni, l'armée congolaise engagée dans l'opération Sokola avec le soutien de la force de MONUSCO poursuit ses opérations de bouclage et de ratissage contre les rebelles de l'Alliance des forces démocratiques, ADF, tout en consolidant les objectifs conquis, jadis sous le contrôle des insurgés ougandais. Dans le territoire de Masisi, le calme est revenu dans les localités de Lukweti et de Nyabiondo, présentement occupées par les troupes gouvernementales. La force de la MONUSCO a déployé un poste opérationnel à Lukweti dans le but de faciliter la reddition d'éléments résiduels de l'Alliance pour un Congo libre et souverain, mais surtout pour protéger les populations civiles. Le 29 mars 2014, 6 éléments de l'Alliance démocratique des forces démocratiques ont été appréhendés par les troupes de la 38e brigade des FRDC à Boulongo, située à 10 km à l'ouest de Mutuanga. Du 25 mars 2014 à ce jour, au total 90 éléments en provenance de différents groupes armés se sont rendus aux troupes onusiennes et congolaises déployées dans la province. Il s'agit de 11 de l'Alliance pour un Congo libre souverain, 6 des forces démocratiques de libération du Rwanda, 33 du groupe Mai Mai de l'Union des patriotes pour, congolais pour la paix et 35 du groupe Mai Mai La Fontaine pour ne citer que cela. Les troupes onusiennes et congolaises maintiennent sous leur contrôle l'environnement sécuritaire au sud Kivu par la conduite de leurs différentes opérations. Au Katanga, le climat sécuritaire demeure volatile dans plusieurs régions situées au nord du Katanga à cause de l'existence de foyers de tension générés par les Bakata Katanga. Le 27 mars 2014, une offensive des FRDC contre les Mai Mai Bakata Katanga au village Mouvoulé, situé à 90 km au nord-est de Mitoaba, a permis la libération de 11 chefs coutumiers du groupement Mupanga, situé à 45 km au nord-est de Mitoaba. Ces notables avaient été kidnappés une année durant par le chef rebelle Feroula au cours de leur campagne de démobilisation volontaire des éléments armés et de la pacification de la zone. Le secteur 2, quant à lui, il est calme, et concernant les statistiques de nos patrouilles, nous en avons mené 1401, dont 563 nocturnes et fourni 31 escortes, pendant que nos observateurs militaires, quant à eux, ont mené 263 autres patrouilles. Je vous remercie de votre attention.
Merci, colonel. Pas d'additif au côté du général, du côté du général? Non. Ok. Retour donc ici à Kinshasa avec Martin Kobler, le chef de la mission. Martin, vous revenez de New York, où vous avez assisté au débat du Conseil de sécurité en ce qui concerne, je crois, le renouvellement du mandat de la MONUSCO. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire?
Voilà, merci bien, Charles. Chères auditrices, auditeurs de Radio Kapi, chers collègues, membres de la presse ici à Kinshasa et à Goma. Ma visite à New York avait deux objectifs. Premièrement, c'était de défendre notre budget, parce que nous sommes et nous continuons d'être la plus chère mission de la des Nations Unies dans le monde. Nous avons raccourci notre budget un peu de 73 millions de dollars, mais nous sommes assez chers. Ça se passait vite. Le Conseil de sécurité, les commissions du budget aussi soutiennent notre travail ici et c'est toujours très bien de voir la sympathie au sein du Conseil de sécurité, mais aussi dans la commission budgétaire. Alors, on va continuer avec notre travail et aussi avec le soutien financier qui est très important. Deuxièmement, plus important aussi, c'est la nouvelle résolution. La nouvelle résolution, maintenant, on ne parle plus de 20-98, on parle de 21-47. C'est la nouvelle résolution du Conseil de sécurité avec quelques éléments qui sont nouveaux. Alors, je voudrais premièrement dire, alors, c'est important de souligner que la résolution mentionne que c'est la première responsabilité de l'État et nous sommes ici pour soutenir seulement. Ce n'est pas la MONUSCO qui a la première responsabilité, alors c'est mentionné tout au début de la résolution. Deuxièmement, j'étais heureux de voir aussi dans le texte de la résolution, vous l'avez sur Internet, le soutien ferme pour la MONUSCO et pour le travail que nous avons fait et la stratégie que nous avons développée. Maintenant, je voudrais bien mentionner deux ou trois points. La première, c'est la nouvelle vision de la force. La nouvelle vision de la force, d'une force qui est moins statique, qui est plus flexible, qui est plus souple, polyvalente, ce sont les mots de la résolution, une posture robuste de l'ensemble de la MONUSCO. Ce n'est pas seulement la brigade d'intervention, ce sont les autres brigades qui travaillent ici, qui sont déployées en particulier à l'est du pays. C'est l'ensemble de la force qui vous soutient, qui soutient les FRDC dans leur combat contre les groupes armés. La force est plus flexible. C'est très important d'aller au dehors, pas de rester, pas d'attendre jusqu'à ce que les déplacés internes viennent au camp, mais d'aller au dehors, plus de patrouilles, plus flexibles, et coopérer dans le combat contre les groupes armés avec l'ensemble de la force de la MONUSCO. Je crois que c'est très important. La résolution aussi confirme les quatre priorités de notre travail ici. C'est premièrement la protection civile, deuxièmement le travail de la stabilisation en particulier à l'Est, mais partout dans le pays, le soutien pour l'accord cadre, la mise en œuvre des réformes institutionnelles comme la réforme du secteur de stabilité, mais aussi les élections et les autres, mais aussi pour la première fois d'adresser les causes profondes. C'est les mines, l'agriculture et tous les à l'Est d'avoir des activités politiques. Et je reviens maintenant d'une visite avec un membre du gouvernement, avec la ministre de Justice. Nous avons intensivement parlé sur les investissements privés dans le pays. Parce que c'est très important alors d'accroître ce secteur d'investissement privé. Sur les élections, parce que ça joue un rôle de plus en plus dans le pays, la résolution nomme 7 principes pour les élections. Les élections doivent être libres, justes, crédibles, inclusives, transparents, pacifiques et conformément avec le calendrier électoral. Ce sont les mots de des élections. Maintenant, une nouvelle idée, c'est très important de mentionner à la fin de cette résolution, c'est de préparer le départ de la MONUSCO. C'est de préparer une stratégie, de préparer, pas de quitter le pays, hein, mais de préparer une stratégie de retrait. Parce que, vous savez, nous sommes ici pendant maintenant combien 14, 15 ans, et la communauté internationale est impatiente de voir les résultats. Avec la chute et le fait militaire de M23, on avait un premier résultat. Je suis très confiant ce que le porte-parole militaire a dit, le général Santos Cruz, avec qui je coopère le matin, le midi, et l'après-midi, et le soir et la nuit. Pour avoir plus de progrès ici. Mais ça prépare le départ de la MONUSCO et il faut faire une, et c'est écrit dans la résolution, un examen stratégique. Le secrétaire général est demandé de préparer cet examen stratégique et le présenter au Conseil de sécurité jusqu'à la fin de cette année. Et cet examen stratégique a pour objectif de décrire les objectifs futurs de la MONUSCO, les activités, mais aussi cette stratégie de retrait et le déploiement efficace des ressources. C'est pour la MONUSCO et pour l'ensemble de la famille des Nations Unies. Maintenant, alors, j'ai dit, alors, on ne va pas quitter demain, alors maintenant, on a le mandat pour un autre an, mais il faut préparer maintenant de voir une stratégie de comment partir du pays, une stratégie de retrait. Aussi, ça c'est un processus, on ne réveille pas demain et la MONUSCO est partie, c'est un processus graduel, mais c'est une nouvelle tâche, ici, dans cette nouvelle résolution 2147. Mais c'est clair qu'on doit définir tout d'abord les paramètres, les critères qui doivent être remplis avant que la MONUSCO parte du pays. Voilà, ce sont les éléments. Je suis très très convaincu. C'est l'esprit dynamique qu'on a commencé maintenant, en particulier avec la force, avec les actions militaires, le soutien pour les FRDC, maintenant contre les ADF, les FTLR et les autres groupes armés vont suivre. Les FTLR jouent, le combat contre les FTLR joue un rôle très prominent aussi dans la résolution, c'est mentionné plusieurs fois, afin de libérer le pays, mais d'avoir aussi les autres réformes institutionnelles, d'avoir le soutien pour l'accord cadre d'Addis Abeba, afin aussi que l'économie et la sécurité, la stabilité de la population à l'Est, mais partout dans le pays, s'améliore dans l'année prochaine. Je suis très confiant que nous avons le potentiel maintenant de remplir dans une façon plus dynamique, plus mobile, avec la force, ce qu'on nous a demandé dans cette résolution. Merci Charles.
Merci Monsieur Martin Kobler. Merci pour ces quelques mots d'introduction. Nous allons ouvrir la session de questions-réponses.